Ève dans le Koulam. Et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et on est arrivé, chapitre 7, verset He, Perek Zayin, verset 5. On fait le switch. Ça y est, la mission a été donnée. On a expliqué quelles étaient les problématiques que rencontrait Moshe, pourquoi est-ce que le peuple ne l'écoute pas, comment est-ce qu'il va devoir se présenter devant Pharaon, et Akadosh Baruch Hu a clairement énoncé l'objectif de la sortie d'Égypte. Je reviens donc au verset He, pour qu'on voit quel est cet objectif. Veyadeu Mitzrayim ki ani Hashem bintoti et yadi al Mitzrayim veotzeti et bnei Israël mitocham. C'est-à-dire, le but, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est que Dieu se dévoile à qui ? À l'Égypte. À l'Égypte. Et non pas à Israël. Le dévoilement à Israël aura lieu, mais il aura lieu plus tard. Ben, c'est Aseret HaDibrot.
Parce qu'il doit passer par l'Égypte avant de passer.
Ben, alors,
parce que c'est l'Égypte qui donne l'autorisation de sortir.
Alors, pourquoi est-ce qu'il doit passer par l'Égypte avant de passer par Israël ? Eh bien, tout simplement parce que la Géoula n'est pas quelque chose de particulier à Israël. La Géoula, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Et donc, il faut que celui qui est le monde, eh bien, soit un participant de cette Géoula. Et donc, il est fondamental que, dans la mesure où à l'époque où on parle, l'Égypte, c'est le monde, eh bien, il faut que l'Égypte soit conscient de cette Géoula. C'est pour ça qu'il faut que Pharaon, l'Égypte, donne la permission au Bnei Israël de sortir, qu'il l'accepte. Et donc, le dévoilement doit être fait à l'Égypte également. D'accord ?
Ça veut dire reconnaître.
Pardon ?
Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître ?
Accepter le dévoilement divin. Qu'est-ce qu'il avait dit Pharaon dès que Moshe était venu le voir pour la première fois en lui disant « Dieu m'a dit de laisser partir son peuple ». Réponse de Pharaon « Mi Hashem Asher Eshma Bekolo ».
Je
le connais pas. Donc l'objectif, c'est que maintenant, ils le connaissent. Yud Kevavke. Ok ? Il faut que le monde reconnaisse Dieu. C'est le but. C'est pas shoot. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit reconnaître Hachem ?
Bien sûr ! Mais sauf que nous, ça sera en deuxième temps. D'abord, il se dévoile au monde, et ensuite, il se dévoile à nous.
Mais nous, on le connaît déjà.
Nous, on ne le connaît pas. On a entendu parler de lui, c'est pas pareil. Il y a une différence entre connaître et connaître. C'est-à-dire, nous, on a entendu de Massoret, de Avraham, de Yitzhak, de Yaakov. On a des notions. Mais entre ça et le dévoilement direct, c'est autre chose. C'est-à-dire, donc, on aura aussi notre dévoilement.
Ils vont être témoins, ils vont vivre le dévoilement. Donc, ils auront
quand
le dévoilement,
pendant la sortie d'Égypte.
Pendant toutes les épreuves de l'Égypte.
Eh bien, justement, on va voir que non.
Ah bon.
On va voir que non. Que justement, ils ne seront pas témoins de tout ça. Enfin, ils seront témoins. Si, ils vont voir sur Internet. Mais ils ne vivront pas l'événement.
Quand ils vont chercher tous les trésors,
oui.
C'est
ça, je comprends pas, tu veux que je te parle déjà de la 9e plaie alors qu'on n'a même pas commencé la première. Dur. Ok ? Alors venez, on y va. Vayas Moshe et Aaron kasher tziva Hashem otam ken asu. U Moshe ben 80 shana et Aaron ben 83 shana bedaberam el Paro. Tov ? Bien fait ?
Pourquoi c'est important ?
Tagid li ata. Bah, pour plusieurs niveaux. D'abord, ça veut dire que Moshe, c'est pas un novice. Et donc, le Midrash, il va s'en donner à cœur joie pour me dire, ok, donc là, il a 80 ans, il a fait quoi avant? Et donc, on va m'expliquer qu'il a eu 40 ans où il était en Égypte. Il a eu 40 ans où il était à Midian, chez Yitro. Et donc, on passe dans sa dernière tranche de vie. Puisque Moshe doit vivre, hein? Autant d'avoir. C'est d'autres ménagers, tu as raison, mais ça ne contredit pas. C'est-à-dire que quand il était prince d'Égypte, eh bien, Pharaon l'a envoyé en stage de formation pour apprendre à gouverner à Kouch. Kouch qui était une province dirigée par l'Égypte. Donc c'est pas étonnant que il se soit fait les dents sur une des provinces avant de pouvoir prendre le contrôle de l'Égypte à la mort de son père. Voilà, donc c'est le même ordre d'idée. Après qu'il ait passé 40 ans chez Yitro, c'est pour nous expliquer qu'il a une partie de son identité qui était égyptienne, une partie qui est devenue midianite, et maintenant, enfin, il devient Moshe. Enfin, il va passer les 40 dernières années de sa vie en tant que Moshe Rabbeinu. Et donc, il y a évidemment la Hagbala, le rapport qui est fait entre lui et Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, pendant 40 ans, il était Amaharetz, c'est-à-dire qu'il n'était pas érudit. Pendant 40 ans, il a étudié, et pendant 40 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Donc on peut mettre en corrélation les 40 années où Moshe est en Égypte, est un Égyptien, c'est à mettre en corrélation avec les 40 ans où Rabbi Akiva est un homme de business, quoi. Les 40 ans où il est à Midian Moshe, c'est les 40 ans où Rabbi Akiva est à la Yeshiva. Et les 40 ans où il est dirigeant du peuple juif en tant que Moshe Rabbeinu, alors c'est les 40 ans où Rabbi Akiva devient Rabbi Akiva. D'accord ? Donc c'est important de savoir quel a été le curriculum vitae de Moshe. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir que Aaron, il a Shalosh ou Shmonim Shana ? C'est-à-dire que, rappelle-toi que c'est lui le plus vieux. Rappelle-toi que c'est Aaron qui est Achiv Agadol. Ça va avoir son importance tout au long de l'histoire. Donc, Vayomer Hashem, ma? Agav, Shmonim Shana, c'est aussi autre chose. C'est Gvura. Ma, dit Teilim, Veim Begvurot, Shmonim Shana. C'est-à-dire que le fait que Moshe, il est maintenant Shmonim Shana, c'est qu'il est dans l'âge de la Gvura. Enfin, plus exactement des Gvurot. C'est-à-dire qu'il est maintenant capable de prendre et de faire sien Midat Adin. Gvura, c'est Midat Adin. Donc, maintenant qu'on sait cela, on y va. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. Ki yedaber alechem paro lemor tenu lachem mofet, ve'amarta el Aaron, kach et matecha ve'ashlech lifnei paro yehi letanin. Donc ça, on avait déjà expliqué. Ils ont besoin d'être à deux. Pourquoi ? Moshe pour jouer la carte égyptienne et Aaron pour montrer qu'il est soutenu par le peuple juif. Et comment va être le point de départ de la discussion, du bras de fer entre Moshe et Pharaon, c'est le coup du serpent. Le coup du serpent, on va voir pourquoi est-ce que c'est ça qui a été mis en place par Akadosh Baruch Hu comme étant le premier des signes. Alors venez, on y va. Va'avo Moshe va'aron el paro va'asuken ka'asher tziva Hashem va'ashlech aaron et mateo lifnei paro ve'lifnei avadav va'yi letanin. On est tous conscients que si jamais ça nous arrivait à nous, c'est-à-dire si demain vous arrivez à Emouna et qu'il y a quelqu'un qui vient et devant le Rav Ben Ishay, il lance un bâton qui se transforme en serpent, ça va le faire. Ça va le faire. C'est-à-dire que je peux vous assurer que vous aurez tous une réaction de « Wow !»
Non, pas forcément.
Quoi, pas forcément? Ah ouais, genre quoi? Tu diras « Bah oui, normal. » Normal. Il en faut plus, hein? Ouais. Framer. Non. Bien sûr que t'es pas habitué à avoir des miracles.
Non, mais c'est pas forcément un miracle.
De transformer un bâton en serpent, c'est un miracle. Bah oui. Ça contredit toutes les lois de la nature. Un bâton ne devient pas un serpent. Non, je sais pas, si toi t'y arrives, je veux bien voir. Mais a priori, c'est assez compliqué de faire ça. Ron, Stam. Mais est-ce que ça va faire une impression énorme sur les Égyptiens ?
Pas du tout.
Pas du tout. Hein ? Je te dis. Maman, je te dis maintenant. וישליחו עזרא, ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתם, כן. וישליחו איש מתהו ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. Alors, dans le film, alors, lequel, tu as raison de préciser, dans le prince d'Égypte, le dessin animé, on voit qu'il triche. qu'ils font de la pyrotechnie, qu'ils font de la fumée, et qu'en fait, ils lancent leur bâton, et derrière, tu vois deux autres mecs qui lancent des vrais serpents. Genre, mais ça, c'est le film. D'après le texte, pas de problème. Les Khartoumé Mitzrayim, ils ont fait pareil. Sérieux? Comment ils font? Tu vois, à la télé?
Non.
Où? Tu en as vu? T'en as vu? T'es des pour de vrai? Ben d'accord, mais peut-être que vous, vous êtes des blasés. Mais moi, je peux t'assurer que c'est, j'ai jamais vu un mec transformer un bâton en serpent. Si il le fait devant moi, je peux t'assurer que ça va. Ça veut pas dire que je vais devenir son serviteur. Mais je dirais, waouh!
Il a abordé l'origine qui ont été rigidifiés. Non, je prends
l'enfant. Après, il est. C'est des serpents qui ont été rigidifiés. Donc c'est pas ça alors.
Il a abordé Pharaon sur leur terrain.
Bon, les amis, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des gens qui transforment des bâtons en serpents. J'en ai pas vu. Là, Malo, ça, ça m'intéresserait d'en voir. Mais en tout cas, le fait est que là-bas, en Égypte, la Torah me dit. Ils n'ont eu aucun problème à le faire aussi. Et on est tous conscients que, un, Dieu, il le sait. Mais c'est pas que Dieu. Moshe aussi, il le sait. C'est-à-dire, Moshe, il a grandi là-bas. Donc c'est très bien que à Poudlard de l'Égypte, en première année de formation de magicien égyptien, tu transformes des bâtons en serpents. C'est Bakhtana. Donc pourquoi est-ce que c'est ça le signe que Dieu a donné? Eh bien, ça nous explique que ce n'est pas pour montrer « je suis le meilleur ». C'est pour montrer « on parle la même langue ». Je viens sur votre terrain, oui ?
De toute façon, il faut toujours regarder la suite.
Ou bien...
Eux, ils font le truc, mais après, comment ça se termine ?
Je suis bien d'accord, on va y arriver, que le bâton de Aaron, il mange les autres. Il n'y a pas de problème, mais deux secondes. D'abord, pourquoi est-ce que c'est ça le signe qu'il a donné ? Pour que tu saches... Je parle la langue que vous comprenez. N'oublions pas que Tanin, c'est le symbole de l'Égypte dans les prophètes. Iné paro a Tanin agadol rovetz betor yorcha. C'est-à-dire que l'Égypte est comparée au grand serpent. C'est le symbole de l'Égypte. Hein. Ils l'ont sur la tête, ils l'ont sur les bras. Ils ont des serpents partout. C'est leur symbole. Et donc, le fait que Moshe sache lui aussi transformer son bâton en serpent, ça montre, yala les gars, on est égal à égal, on va pouvoir discuter. Donc l'objectif n'est pas de leur faire peur, l'objectif est de leur montrer que je suis un mec sérieux. Effectivement, le fait que Vayivla mate Aaron et Matotam, ça calme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, qui a mangé quoi? C'est vrai, c'est plus les serpents. Le chidouche, c'est pas que le serpent de Aaron, il a mangé les serpents égyptiens. Parce qu'à la limite, c'est possible. Mais que c'est quand il est redevenu bâton. Il a mangé les bâtons des autres. Là, c'est chaud. Là, c'est déjà plus chaud. Et ça, je sais pas si tu as déjà vu.
Donc
il
n'avait plus leur bâton.
Bah, peut-être qu'ils en avaient un autre en réserve. Mais là, a priori, il avait bu. Et ça, je sais pas si tu as déjà vu dans ta carrière un bâton manger un autre bâton. Ah, hein, tu vois, ça, ça le fait. Hein, là, d'accord. Là, tu dis, ok, bon. Vayechezak lev paro. On a dit pourquoi est-ce que Dieu il emmène ce chizouk, lève paro, justement pour qu'il tienne la distance. Pour pas qu'il ne soit tout de suite, ah bon bah c'est plus fort que moi, yalla. Non, on a envie d'avoir un vrai dialogue, un vrai débat, donc, animachbid et libo. D'accord? Vayomer Hashem el Moshe, kaved lève paro, me'en le shalach am. Pardon? Oui. Oui. Ok, ben vadaï. Il y a plusieurs choses. Le chazek, via le achbid. Il y a le akshot, le chazek ou le achbid. Là, on a dit kaved lev paro. Oui, mais juste après, il y a marqué quoi? Vayomer Hashem el Moshe, kaved lev paro. Donc, il y a trois dimensions différentes. Il y a le akshot, il y a le achzik, le chazek, et le achbid ou le kaved lev paro. Paro, c'est quoi la différence? Il l'a endurci. Non, d'abord, ouais, non, mais celui du milieu, comment tu traduirais? il l'a renforcé. Endurci, renforcé, alourdi. C'est-à-dire, d'abord, il faut le rendre dur. C'est-à-dire qu'il ne soit pas perméable à toute chose qu'il va voir. Ensuite, il faut qu'il soit yoter, chazak. C'est-à-dire chazak dans le sens, je reste de camp sur mes positions, j'ai des positions. Et ensuite, kaved, à savoir, je me comporte à l'inverse de ce que je devrais me comporter. C'est-à-dire, vous avez déjà fait, j'imagine, des cœurs sur le barbecue, sur la flamme. Qu'est-ce qui se passe quand on met une flamme sur un cœur?
Un cœur à manger.
Un cœur à manger, la volaille. La volaille, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, ça brûle, mais comment il se comporte et le kaved? C'est-à-dire que y a la peoula, elle est l'inverse. Chez le kaved, c'est mitkabetz, alors que le lev, il est mitrachev, il s'ouvre. Après, si tu le brûles trop... Et donc là, on te dit non, ou kaved, lev, paro. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une peoula de s'ouvrir, le problème, c'est qu'il va se refermer.
Même s'il voulait libérer le peuple d'Israël, il n'y arrive pas.
C'est pas que... Là, la situation, c'est pas Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire que si, pour les Hakshot, c'est Dieu qui dit « Ani olech le Hakshot », pour les Chazek, c'est Dieu qui dit « Ani olech le Chazek », là, c'est juste Dieu qui dit « C'est ce qui se passe, Kaved lev paro », c'est pas moi qui lui ai fait ça. C'est lui, avec son libre-arbitre, justement, renouvelé, il a décidé de se recroqueviller sur lui-même, donc ça va être plus dur pour toi. Au boulot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va. « Lech el paro »« Ba boker » On nous dit « Razal, pourquoi ba boker ?» Parce que c'est le moment où il allait faire ses besoins. Paro, Mkol HaKavod, il a besoin d'aller aux toilettes. Or, Pharaon se considérait comme étant une divinité. Donc il faisait ça uniquement le matin quand personne ne le voyait, pour ne pas qu'on voit les manques du souverain. C'est pas comme? Oui, effectivement. Il n'y avait pas la toilette du roi. Ça, c'était pas comme ça. Donc, « Vayomer Hashem el Moshe Ezra, lech el paro, ba boker ine yotze » הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך ואמרת אליו השם אלוהי העברים שלחני עליך למור שלח את עמי ויעבדוני במדבר והנה לא שמעת עד כה Donc le programme est clair. Laisse partir les Hébreux, c'est mon peuple, dit Dieu, qui me serve dans le désert. Quand אמר השם בזאת תדע כי אני השם הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. Et là, on rentre, évidemment, vous avez compris, dans l'histoire des 10 plaies. On rentre dans l'histoire des 10 plaies et il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi les 10 plaies? Pourquoi celle-là? Et qu'est-ce qu'elles viennent apprendre à Pharaon? Ok? Va commencer une joute verbale et physique entre Pharaon et Moshe. À chaque fois que Moshe présente un argument, Pharaon devra y répondre. Une fois qu'il y aura répondu, il lui présentera à Moshe un contre-argument. Toujours autour de la question, est-ce que vous méritez de sortir d'Égypte? C'est ça la question. Pour l'instant, je ne suis pas d'accord pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc, premier argument de Moshe, les arguments ne sont pas marqués. D'accord? Ce qu'on va voir maintenant n'est pas marqué dans le texte. Mais elles sont tellement bien remousées, c'est-à-dire qu'elles sont tellement bien allusionnées, merci, que on peut comprendre autrement, mais ça va être dur. Parce qu'on va voir maintenant les 10 plaies comme étant une... Shirva Achat. Certes, un ensemble. C'est vrai que dans la Haggadah de Pessah, on a plus la tendance à les séparer en trois morceaux. Detzar, Adash, Be'achav, Zenachon. On les sépare en trois groupes. Mais nous, on va les prendre comme un ensemble. Pourquoi on va les prendre comme un ensemble? Parce que pour nous, les 10 plaies sont le dévoilement de Dieu, on a dit à l'Égypte. Or, de la même façon que nous aussi, on aura un dévoilement qui sera de 10 paroles, eh bien, eux, ils ont un dévoilement en 10 makot. qui doivent faire le miroir aux 10 paroles qui ont créé le monde. D'accord ? Donc la notion de 10 prise comme une unité intacte doit être respectée. Maintenant, si on veut aller plus loin dans l'explication, alors on comprendra que dans le 10, il peut y avoir des subdivisions. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est un ensemble. Alors allons-y. Non, ben non, la Aaron n'existe pas, parce qu'à ce moment-là, la discussion, c'est l'Égypte par l'Égypte. On sait que tu as les Hébreux derrière toi parce que Aaron il est là. Ok ? Alors allons-y. Dans la première chose qui va se passer, c'est quoi ? Zemakat Dam. Mais sauf que c'est pas tellement le sang qui est important. Alors oui, évidemment qu'il y a ce que Chazal va nous expliquer, la notion de Mida Keneged Mida. Pourquoi est-ce que les eaux du fleuve vont être transformées en sang ? Parce que tu as répandu le sang dans les eaux du fleuve. Quand tu as tué les enfants juifs en les jetant dans le fleuve, hein ? Oui, oui, tu as raison, certes. D'abord les juifs et ensuite tout le monde. C'est-à-dire que tu as versé le sang dans le fleuve est transformé en sang. Mida keneged mida. Mais il y a ici quelque chose d'autre. Vous rappelez donc la question de base, c'est pourquoi est-ce que je laisserai partir les Bnei Israël ? Premier argument de Moshe, écoute, nous méritons de partir d'Égypte parce que nous sommes meyuchadim. Nous sommes particuliers. En quoi ? Nous sommes les enfants d'Abraham. Et ça, ça nous confère un statut particulier. Ah bon ? Bon, j'avoue que je connais Abraham. On l'a dans quelques papyrus à nous. On a vu qu'il a eu une petite période en Égypte et tout sympathique. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet Abraham ? Ah, bah Abraham, d'après ce qu'on sait de la Torah, et en plus de ce qu'on sait de nos sages, ou Avar et Anar, ou Avraham a Ivri, pas seulement parce qu'il est hébreu, ça on l'a déjà dit, mais parce que ou Avar et Anar, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de la civilisation qui était à côté du fleuve. Toutes les civilisations, elles sont à côté des fleuves. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de l'eau, naturellement, pour vivre. Mais Abraham, il s'est élevé au-delà de la nature. Il a survécu à la fournaise. C'est-à-dire qu'Abraham est au-delà de la nature. Il a cette capacité à s'élever au-delà des contingences naturelles. Il a fait. Mais c'est pas parce qu'Abraham, il était comme ça, que vous, les Hébreux, vous avez hérité de cette qualité. Et là, on va mettre en place un ikaron, un principe qui est mentionné dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, qui nous dit « Ashabbat matzil et chavrotea ». Le Shabbat sauve ses copines. C'est quoi ce concept du Shabbat qui sauve ses copines ? Alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas à la halema assez. D'accord ? Donc ne venez pas dire c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mais dans la théorie, on vient nous dire que si Shabbat, t'as deux personnes qui se noient, un juif et un non-juif, tu as le droit d'aller sauver le juif, même si en faisant ça tu vas transgresser Shabbat. Pourquoi ? C'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser tous les moyens possibles pour le sauver, y compris téléphoner, machin, nanana, parce que ou shomer Shabbat, à Shabbat shomer et alav. Le non-juif, il n'est pas Shomer Shabbat, donc il n'y a pas de raison que le Shabbat Shomer est Alav. T'inquiète pas, à la Chalema Aseh, on sauve quand même le non-juif, pas à cause de Shabbat Matzil et Travotea, mais à cause de plein d'autres raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on veut être des gens bien. Kiddush Hashem. Hein, mais pour comprendre le Icaron de « les amis de mes amis sont mes amis ». Donc, en fait, on va voir que les plaies vont toujours s'attaquer à celui qui ne respecte pas la chose en question, mais épargne celui qui porte la même identité que la plaie. Donc, Abraham, je suis en train de te dire que c'est quelqu'un qui est capable de s'élever au-delà de la nature. En Égypte, la nature, c'est le Nil. Frappons le Nil et on verra qui est touché. Si les Hébreux sont touchés, c'est qu'ils n'ont pas hérité de la qualité d'Abraham. S'ils ne sont pas touchés, c'est qu'ils ont eux aussi également hérité de cette qualité abrahamesque de ne pas être dépendant uniquement de la nature. Alors qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est pas chouette. והדגה אשר ביאור תמות ובאש ובאשתרה יאור ונראו מצרים לשתות מים מן היאור ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון קח מתך ונוטה ידך אל מימי מצרים על נערותם על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים פורקו את סקוסי אהרון כיפה דיס חזל פרסקו משה הייתי סובה פר לניל Donc, c'est pas sympa de taper là où toi tu as été sauvé. Donc, c'est Aaron qui agit. Et effectivement, va yasken Moshe va Aaron, kasher tziva Hashem, va yarem bemate, va yach et amaim, asher ba yor, le ene paro, le ene avadav, va yafechou, kol amaim, asher ba yor, le dam. והדגה אשר ביאור מתה, ויבש היאור, ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהיה דם בכל ארץ מצרים, ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם. אז הם תרובי דבטון. Donc, ils ont fait, il y a eu du sang partout, pas que dans le Nil, mais dans toutes les réserves d'eau de l'Égypte. Et donc, ben voilà. Sauf que, c'est que dans les réserves d'eau des Égyptiens. Nous, on n'a pas été touchés. Aval, on voit que les Égyptiens, ils sont touchés, mais ils ont quand même une maîtrise de la chose. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire que les mages égyptiens ont eux aussi également réussi à faire pareil avec leurs bâtons. Ils avaient des bâtons de rechange. Pourquoi ?
Ils ajoutent.
Pourquoi ils ajoutent ? Ils ajoutent quoi ?
Et à chaque fois, ils font la même chose.
Non, c'est quoi ? Ils font la même chose. Ah, tu dis, ils remettent du sang. Ah oui, bon, tu as raison, mais qu'est-ce qu'ils veulent montrer ? C'est-à-dire que voilà, donc quelque chose que je peux faire aussi ne me fait pas peur. Je le domine. Maintenant...
Je
ne
comprends pas,
oui.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ah, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réussi à faire. Alors, tu as raison, que ce n'est pas marqué ici littéralement dans le texte. Chazal vont dire que quelle eau n'a pas été touchée par la plaie faite par Moshe Aaron ? La nappe phréatique. C'est-à-dire qu'il y a marqué, c'est-à-dire le fait qu'on ait tellement marqué toutes les sortes d'eau, c'est que, bah, ok, donc ça veut dire qu'on fait bien la différence entre les différentes sortes d'eau. Il y en a une qui n'a pas été mentionnée, c'est les eaux souterraines. Donc les Égyptiens, très vite, et c'est ce qu'on te dit là, juste maintenant, là, j'avance deux secondes dans le verset, on te dit, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות כי לא יכלו לשתות ממי היאור donc ils ont creusé et ils ont trouvé de l'eau c'est sur cette eau là que les égyptiens ont montré qu'ils étaient capables eux aussi de le faire Non, on t'a pas dit qu'ils ont fait ça sur toutes les eaux des infernaliques ils ont pris j'imagine dans une bassine et ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire aussi C'est-à-dire, faut pas les prendre pour plus idiots qu'ils ne sont non plus. Ah, parce qu'on ne veut pas faire mourir l'Égypte. Tu comprends que s'ils si ne boivent pas du tout pendant 7 jours, ils vont tous mourir. C'est pas le but. Ok ? Mais il faut qu'ils aillent creuser. Il faut qu'ils aillent chercher en fond d'eux-mêmes pour trouver quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, d'après l'argumentaire qu'on a mis en place, Abraham, pas Abraham, que les Égyptiens, eux aussi, y arrivent ? Bien, l'argumentaire est simple. Pharaon dit à Moshe, j'entends bien que vous êtes les enfants d'Abraham, j'ai bien compris. Mais vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à être les enfants d'Abraham. Si je ne me trompe pas, Abraham, il a eu un fils avec l'Égypte. Ishmaël, il est le fils de Hagar, fille de Pharaon. Et même si tu ne veux pas que ce soit la fille de Pharaon parce que tu n'aimes pas le Midrash, bah, il y a quand même marqué qu'elle est mitzrite. Ça, c'est clairement évoqué, donc... On est aussi lié à cela. Ah, effectivement, tu marques un point. Tu marques un point. Donc, je vais devoir continuer dans mon argumentaire. Et donc, effectivement, vaimale shevuat yamim, achare akot Hashem et ayehor, vayomer Hashem el Moshe, bo el paro, vamarta elav, ko amar Hashem, shalach et ami veavduni, vaimaenata leshaleach, inne anochin nogef et kol gevulecha batzfardeim. Deuxième argument. Certes, tu as marqué un point Pharaon, un partout, balle au centre. Nous sommes les enfants d'Abraham, peut-être que quelque part vous aussi. Mais nous ne sommes pas que les enfants d'Abraham. Nous sommes également les enfants de Yitzhak. Tov, bien fait, fait. L'azma.
Ils ne connaissent pas.
Ah, c'est vrai qu'ils ne le connaissent pas. Lui, il n'a jamais mis les pieds en Égypte. Alors, très bien, c'est intéressant ce que tu me dis. Mais c'est qui ce Yitzhak? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ton Yitzhak? Hein? Ishmaël, il connaît Yitzhak, Zenachon, même s'il a toujours refusé de le reconnaître. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dialogue entre Ishmaël et Yitzhak. Mais c'est Esav, ça. Ah, tu vas déjà faire, mais ça, ça va être la génération encore d'après. Là, pour l'instant, on n'est que à Yitzhak. Mais c'est pas grave, même si tu ne le connais pas, je vais te l'expliquer. Yitzhak, c'est quelqu'un d'extraordinaire, puisque c'est lui qui nous a appris la dimension de Messirut Nefesh. D'être prêt à mourir pour Dieu.
Abraham
aussi. Où? Mais même dans le Midrash, on ne lui a pas demandé son avis à Abraham quand on l'a balancé dans la fournaise.
Il avait le choix entre...
Si t'es Mahamin, je te balance. Mais c'est pas lui qui a accepté de se faire balancer. Il n'a pas dit « balance-moi ». Alors que Yitzhak, il a dit « okdeni raglai veyadai ». C'est lui qui a demandé d'être attaché.
Et Nahor a dit oui.
Hein?
Nahor a demandé.
Quoi Nahor?
Nahor, le frère de...
Aran, tu parles.
C'est Aram, c'est pas Nahor?
Qui quoi? Qui est rentré aussi dans la fournaise?
Oui.
Mais c'est Aran, c'est pas Nahor. Nahor, il était déjà parti à Haran depuis longtemps. Bekitsour, Yitzhak, c'est la Messirut Nefesh. Le fait d'accepter de monter sur le Misbeach. Et puis, j'aurais pu te dire, mais tu m'as précédé, c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. J'aurais pu te dire que on veut une Messirut Nefesh pshatit. On ne veut pas une Messirut Nefesh midrashit. C'est-à-dire, donc, Bemet Yitzhak, c'est lui qui est capable de mourir à l'Emunato. Et quel rapport avec notre Sfardéim? Ben regardez. Quel rapport avec les grenouilles? Ben regardez, c'est marqué noir sur blanc. Vesharat sayor Sfardéim, ve'alou ba'ou bebeitecha, ou bechadar mishkavecha, Vel mitatecha, donc c'est pour l'instant c'est juste pas sympa, ils sont un peu partout. Ubebet avadecha ou beamecha, ubetanurecha ou bemisharotecha. Dit Rashi, apprend de la grenouille qui était prête à rentrer dans les fours et donc de mourir pour faire la volonté de son créateur. Alors pourquoi Dafka les grenouilles? D'abord, c'est pas les grenouilles au début, c'est la grenouille. Quoi? Ah bah, regarde la suite. C'est toujours comme ça, on connaît la suite, non? Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans la suite? Quand on le fait concrètement, regarde ce qui va se passer. Vayomer Hashem el Moshe emor el Aaron neteyadecha bematecha al ha'ne'arot, al ha'yorim ve'al ha'agamim, ve'al et ha'tzfardeim al eretz Mitzrayim. Vayata Aaron netyado al memei Mitzrayim v'ta'al ha'tzfardea. On avait parlé des grenouilles, tout d'un coup il y a une grenouille qui sort. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pas avant que ce soit les grenouilles. Alors pourquoi les grenouilles? Nouma? Non, non, je te dis pas, tu sais, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Lama Dafka les grenouilles. Là encore, Rabotai, il faut tout simplement avoir un tout petit peu de connaissances en mythologie égyptienne. Eh oui, parce que n'oubliez pas qu'on vit dans une époque là-bas où les animaux, c'est une symbolique fondamentale. C'est vrai ? Donc la grenouille, ça fait partie du panthéon égyptien. Ok ? Et c'est quoi la déesse Bastet de la grenouille ? C'est, elle est mi-grenouille, mi-chat. C'est pas mal comme mélange. Et là-bas, c'est la déesse de la force, la gvoura. Zeitzrak Avinu. C'est-à-dire? Mais effectivement, que quand tu n'es pas baki dans l'égyptologie ancienne, ça ne te parle pas, la grenouille. Mais Moshe, il vit dans l'Égypte, il connaît, ça fait partie de son truc. Bekitsour. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Les grenouilles, elles vont rentrer dans les tanourim. Elles sont prêtes à mourir pour faire la volonté de leur créateur, Messirut Nefesh. Bon, ben là, pareil, hein, on va vérifier qui est touché par les grenouilles, ben les Égyptiens, qui est pas touché, les Hébreux. Bon, ben très bien. 2-1 pour Moshe. Vous avez hérité cette qualité yitzhakienne de Messirut Nefesh. Seulement, très rapidement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Va'yikra paro le Moshe ou le Aaron, va'yomer, atiru el Hashem, va'yaser et atzvardeim mimeni, ou me'ami, va'yashalacha et ha'am, va'yizbechu la Hashem. Va'yomer Moshe le paro, itpa'er alay, le matai atir lecha, ou la'avadecha, ou la'amecha, la'achit atzvardeim mimecha, ou mibatecha, rak va'yor tisharna. Très bien, je vais faire ce que tu me demandes. Finalement, les grenouilles, elles seront que dans le fleuve. Mais quand? Vayomer le machar. Vayomer ki dvarecha le ma'an teda ki en ka Hashem Eloheinu. C'est-à-dire, il dit, c'est pas moi qui vais te dire quand ça s'arrête. Toi, t'as qu'à me proposer un moment où ça s'arrête. Et tu verras que c'est véritablement Dieu, puisque toi, c'est pas toi qui gères. Mais tu es dit demain? Ah, demain. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe? Vesarua tzfardeim. Mimecha, ומבתך, ומעבדך, ומעמך, רביות שרנה. ויצא משה ואהרון מעם פרעה, ויצעק משה אל השם, אל דבר הצפרדעים, אשר שם, אשר שם לפרעה. ויעש השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, ומן החצרות, ומן הצדות. ויצברו אותם חומרים חומרים, ותיבש הארץ. Donc les Égyptiens, ils ont kiffé les grenouilles finalement. Ils les ont récupérées, ils ont fait des cuisses de grenouilles. Ils ont kiffé. Et donc, Payar Paro qui a été à Revacha, Tachbed et Libo, Velo Shama, Alehem, Kacher, Diber Hashem. C'est-à-dire que, bon, nos sages dans le Talmud vont dire qu'ils ont réussi aussi à faire sortir les grenouilles. Mais même sans ça, ils ont kiffé les grenouilles finalement. Donc ça ne les dérange pas, ils les ont fait leur. Et qu'est-ce que ça représente dans notre façon de comprendre? Eh bien, c'est que, ok, vous êtes les enfants de Yitzhak, Femeod, mais vous n'êtes pas les seuls non plus. Il y en a d'autres qui sont les enfants de Yitzhak, tu as dit tout à l'heure, Esav. Esav qui va devenir Edom, qui va devenir Rome, qui va devenir le monde occidental chrétien. Eh bien, les chrétiens ont montré que eux aussi étaient prêts à mourir pour leur foi. Donc cette notion de Messirut Nefesh, c'est pas que chez vous. Tov, Nachon, de partout. Donc, j'ai un autre argument. Nous ne sommes pas que les enfants d'Abraham et Yitzhak, je te le donne en mille. Nous sommes également les enfants de Yaakov. Bien fait. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Yaakov? Ben regardez. Vayomer Hashem el Moshe emor el Aaron netet matecha v'ach et te'afar et afar haaretz v'haya le kinim bechol eretz Mitzrayim. Kinim, les poux. Quel rapport avec Yaakov? Ben là c'est clair. Yaakov. Bon, d'abord, Yaakov, tout le monde le connaît en Égypte. Il est papyrus plein. Donc, il sait très bien qui c'est Yaakov. Quelle est la particularité de Yaakov? Il le sait aussi. On n'a pas besoin de lui expliquer. C'est quoi la particularité de Yaakov? Rappelez-vous, Pharaon, c'est considéré comment en Égypte? Divinité. Quelle est la première chose que Yaakov y fait quand il arrive en Égypte? Il le bénit. Donc, Yaakov, il est quoi? Il est super Dieu. Donc tout le monde le sait, que Yaakov, c'est celui qui est capable de dévoiler le divin. À tel point que dans le livre de Bereshit, on a vu « Vayikra lo El Elohe Israël », que Dieu l'a appelé « El ». Il y a une dimension dans Yaakov qui est capable de dévoiler le divin. Yaakov, c'est aussi Israël. Nechidah, bien sûr. Donc, quel rapport avec l'époux? Regardez ce que nous dit la suite. Vayasuken chartumim belaatem lehotzi et akinim velo yacholu. Ils n'ont pas réussi cette fois. De là, on apprend que les deux autres fois, ils ont réussi. Mais là, ils n'ont pas réussi. Lama. Velo yacholu. Vatei akinam ba'adam ba'behema. Vayomru chartumim el paro etzba Elohim hi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils ont dit, Rashi dit, les forces des chartumim n'arrivent pas à créer des choses qui sont tellement petites. Et donc ils ont dit, bah alors ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que grâce à la plaie des poux, ils ont dévoilé la dimension divine. Quel rapport avec Yaakov? Bah, vous vous rappelez que Yaakov, il est mort en Égypte. Et il demande à Yosef une chose. Surtout, ne m'enterre pas en Égypte. Rashi, il amène deux raisons, enfin il amène trois, mais il y en a deux qui m'intéressent là ce soir, de pourquoi il n'a pas voulu être enterré en Égypte. Non. Ah oui, mais c'est pas ça qu'il dit. Tu as raison, ça c'est ce qu'il dit formellement. Mais pourquoi il veut d'Afka pas être enterré en Égypte? Il dit parce que je sais que viendra un jour où la terre de l'Égypte deviendra des poux et je ne veux pas être pris pour une idolâtrie. Donc la dimension divine de Yaakov, elle est connue chez tout le monde. Et les poux, parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire, montrent que c'est bel et bien Yaakov qui est capable de dévoiler le divin. Et là encore, les Égyptiens sont touchés, pas nous. Donc, nous avons hérité de cette capacité qu'avait Yaakov de dévoiler la dimension divine.
C'est étonnant que les Égyptiens, que les sorciers n'arrivent pas à cultiver les poux, parce que c'est pas...
Cultiver peut-être, oui, mais les créer, c'est autre chose.
Au niveau d'un pays.
Je veux dire que suivi quelques cheveux, quoi.
Non, mais il y a une différence entre cultiver des poux et les créer, c'est autre chose. C'est vrai? Vous savez qu'il y a, pendant très longtemps, la halakha, elle s'est trompée. C'est dur de dire un truc comme ça. Mais pendant très longtemps, la halakha, elle disait que c'est moutard de tuer des poux pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on a pensé que les poux, c'était ce qu'on appelle, si je me trompe pas, la génération spontanée. C'est-à-dire que on savait pas que les poux, ça avait, c'était des êtres vivants, normaux, et machin, et qui se reproduisaient, et qu'ils venaient pas de nulle part. Mais on pensait pendant très longtemps que les poux, ça naissait de la poussière, comme ça, pouf. Et donc, on n'appelait pas ça une bria, et donc ça s'appelait pas tuer un animal pendant Shabbat. Bon, maintenant, on a compris que c'est pas comme ça que ça marchait. Donc, ça devient interdit de tuer des poux Shabbat. Comme tous les animaux, d'ailleurs. C'est-à-dire, mais bon, c'est-à-dire qu'on crée pas des poux comme ça.
Tuer un moustique, c'est pas possible.
Bah, si il n'est pas dangereux pour toi, non.
Il va me piquer.
S'il va te piquer, que tu sais que t'es allergique et que tu vas finir à l'hôpital, si t'es pas allergique et qu'il va te piquer, ça va te saouler, alors tu fais une... Et de quoi faire comme ça? Non, ça s'appelle pas le chasser. Le chasser, ça s'appellerait attendre qu'il se pose sur le rebord de la fenêtre ou sur le rebord de truc et lui mettre un verre dessus. Ça, ça s'appelle chasser. Et ça, t'as pas le droit. C'est-à-dire maintenant, en général, quand t'arrive le moustique, tu demandes pas. Tu fais. Et bon, on va trouver des circonstances atténuantes après. Le serpent. Le serpent, il est dangereux, bien sûr. Ah, toute chose qui te met en danger, piquar nefesh, doré, quoi, la torakula. Oui, non, mais évidemment. Évidemment, bah, si tu peux l'attraper sans le tuer, ça marche aussi. Si tu peux préserver la vie sans tuer le serpent, ça marche aussi. Bon, mais ça c'est... Ou transforme en bâton, ça marche aussi. C'est-à-dire... Bekitsour, 3-2.
Je peux fermer la porte.
De quoi?
Je suis pas un animal.
Oui, tu peux fermer la porte. Ça dépend de la taille de ta maison, mais Bégadol, tu peux fermer la porte. C'est-à-dire... Ah, en même temps, je sais pas ce qui se traîne chez toi, alors, à ce moment-là. C'est-à-dire... Bekitsour, en général, d'ailleurs, quand c'est un petit animal, t'as plus envie qu'il parte de chez toi plutôt que de le garder chez toi. Donc, 3-2. Quel peut être maintenant l'argument? Parce qu'on a dit, on est les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous, non. Parce que Yaakov, en l'occurrence, tous ses enfants, c'est nous. Alors, quel peut être maintenant l'argument de Pharaon? Eh bien, là, Pharaon, il dit, bon, ok, très bien, sababa. J'entends que vous êtes différents de nous. J'ai bien compris. Vous êtes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez hérité de leur qualité, nous non, très bien. Mais, à un moment de votre histoire, c'est vous qui avez décidé de nous rejoindre. Vous avez décidé de mêler votre destinée à la nôtre. On vous a rien demandé, on vous a accepté, mais c'est vous qui êtes venus. Et depuis, ça fait quand même 210 ans, on en a construit des choses ensemble. À tel point que Pharaon, il a été à la tribune du Parlement égyptien, il a dit, l'Égypte, sans les Juifs d'Égypte, ce n'est plus l'Égypte. Je te jure, il a dit ça. Ben, il a copié un de ses prédécesseurs français. Mais c'est ça. Et donc, il dit, puisque on a tellement fait de choses ensemble, vous ne pouvez pas maintenant vous détacher de nous. Vous ne pouvez pas vous séparer de notre effort national commun. En fait, qu'est-ce qu'il prône comme argument Pharaon? Il dit que, bon, vous êtes peut-être différents, mais on est mélangés maintenant. Ben, c'est ce qu'il dit Pharaon, on est mélangé, on a fait plein de choses ensemble.
Mais
qui te dit? C'est l'argument de Pharaon. Toi, tu dis non.
Non, mais lui, il dit ça.
Ben, faut prouver que c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il demande comme Mifran, Pharaon? Comment on dit... Pardon? Oui, j'y viens dans deux secondes, là, maintenant. C'était volontaire de l'amener comme ça. Tu vas voir pourquoi. Parce que comment on dit être mélangé en hébreu? L'arbev, l'itarvev. Donc, c'est quoi la quatrième plaie? Arov. C'est quoi, arov? Non, pas ce que c'est dans les... Pas comment ça s'est dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Irbouv. Le mélange. C'est ça, le Mifran. Qu'est-ce que c'était? Ben, on va voir. Donc, Vayomer Hashem el Moshe Hashkem baboker veitiatsev lifnei paro. Ine yotzea maima. ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח לך בך, ובעבדיך, ובעמך, ובבתיך, את הערוב. ומלאו בבתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הן עליה. Donc c'est quoi ce ערוב? Toi, t'as dit les bêtes sauvages. Parce que... Parce que quoi? Les bêtes féroces. Et pourquoi? D'où tu sais? La Haggada, du dessin de la Haggada. Parce que la Haggada, elle a préféré la vie de Rav à la vie de Shmuel. Parce qu'il y a une marloquette dans le Talmud, c'est quoi Arov? Est-ce que c'est les bêtes féroces ou est-ce que c'est des pishpeshim, des puces? Semble-t-il que pour la Haggada, c'était plus tsiouri de dessiner des... C'était plus comme ça illustratif de dessiner des bêtes sauvages que de dessiner des puces. Donc tout le monde a accepté la vie qui a été repris par Rashi. Et donc, tout le monde pense que Arov, c'est des bêtes sauvages. Mais il faut savoir qu'il y a une autre, un autre avis qui dit que c'était des puces. Mais bon, comme Chanet, oui ?
Les bêtes sauvages, c'est-à-dire des lions, des tigres.
Ouais ? Pourquoi ?
D'après la description.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont rentrés dans les maisons et tout ça ? Bah, pourquoi pas ?
Ça veut dire pas des millions de...
Ouais ?
De lions ?
Ah, tu sais, je pense de toute façon que, encore une fois, la réalisation physique des choses... Je sais pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire que toi, t'es le premier à me dire que le Midrash, faut pas forcément le prendre au pied de la lettre. Quand le Midrash te dit qu'il y avait une grosse grenouille et que dès que tu l'as frappée, il y avait des milliers de grenouilles qui sortaient, je sais pas si ça s'est passé comme ça dans les faits, ou ça veut nous apprendre quelque chose. Là, pareil, peut-être que dans les faits, dans chaque ville, dans chaque village égyptien, il y a, tu sais, ça suffit que deux lions se baladent dans le village, ça terrorise tout le village et toutes les maisons. Donc je sais pas si effectivement, il y avait un temps T, dans toutes les maisons, des bêtes féroces. L'homme est chané. C'est pas très important.
Il y avait la télé,
donc. Oui, évidemment qu'il y avait WhatsApp, de toute façon.
Des animaux malfaisants.
Pardon ?
Chez moi, ils traduisent des animaux malfaisants.
Oui, ben, on a dit, c'est l'un des deux avis. Ça a l'air. Maintenant, en bataille, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'argument de Pharaon, c'est quoi ? C'est de dire, vous vous êtes mélangés à nous. C'était quand, l'époque où on est venu se mêler à eux ? Donc c'est qui la personnalité de l'époque? Yosef. Vous voyez, Avraham, Yitzhak, Yaakov, maintenant on a Yosef. Mais Yosef, quand il nous a fait venir en Égypte, où est-ce qu'il nous a mis? C'est-à-dire qu'on était en Égypte, Goshen, ça fait partie de l'Égypte. Mais c'est écarté. Comment ça s'appelle être chez les autres sans vraiment être mélangé aux autres? Ghetto. Il avait un ghetto, Yosef, l'inventeur du ghetto. Comme jamais. Yosef, il a fait ça pourquoi? Pour qu'on ne soit pas mélangé. C'est que l'argument de Pharaon, c'est de dire on s'est mélangé. Je dis non, pas du tout. C'est vrai que ça fait 200 ans qu'on vit chez vous, mais on est entre nous. Et donc, dans la quatrième plaie, c'est la seule fois où il y aura ça, le Mifran n'est pas entre les Égyptiens et les Hébreux. Regardez ce que dit le texte. « Vifleti bayom ahu et eretz goshen » Asher ami omed alea le bilti yotcham arov le man teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Cette fois, la différence n'est pas faite entre les Égyptiens et les Hébreux, mais entre la terre de Goshen et le reste de l'Égypte. Pour bien montrer que c'est de cela qu'on parle. Donc, tu dis qu'on a été mélangés? Non. On n'était quand même pas vraiment mélangés parce qu'on était entre nous. Certes chez vous, mais entre nous. Et tu te baladais, on l'avait déjà dit dans Bereshit, mais tu te baladais à Goshen, t'avais pas l'impression d'être en Égypte. C'est-à-dire ? Donc, Pharaon, mon ami, non seulement Eh bien, nous sommes les enfants de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous avons des qualités qui font qu'on mérite de sortir d'Égypte, que vous n'avez pas. Et en plus de ça, eh bien, on ne s'est jamais vraiment mélangé à vous. Donc, tu ne peux pas venir dire qu'on a un destin commun. Ça fait 4-2 déjà. Quel va pouvoir être l'argument de Pharaon à présent ? Et les amis, ça nous le verrons la semaine prochaine !